Les quatre équipes qui les devancent n'ont qu'une victoire d'avance sur elles. Les quatre équipes sont ex aequo, donc elles sont à une victoire de la deuxième place, mais pour l'instant sixième, donc fin de saison très importante. Tous les matchs vont compter.
Exactement, merci en tout cas pour cette actu basket à Maury. On embrasse Faustin qui d'habitude nous fait cette actu. Pas de handball cette semaine, ce sera ce week-end exactement. On va évoquer ce qui s'est passé en volley, puisque le SCO donc jouait, enfin en tout cas les hommes du SCO se sont donc joué un match très important à l'extérieur du côté de Sartrouville. Malheureusement c'est une défaite 3-7 à 2, après avoir été menés 2-7-0, ils sont revenus à 2-7 partout. Les coéquipiers de Salim Benani, le capitaine de cette équipe, et malheureusement dans le dernier set ça s'est pas tourné du bon côté malheureusement pour eux, et ils se sont inclinés donc face à un concurrent entre guillemets pas direct, mais face à une équipe sur laquelle on aurait pu espérer qu'ils prennent des points. Malheureusement, ça ne le fera pas pour eux. Match ce week-end pour le SCO volley, en tout cas pour les garçons et pour les filles. C'est donc du côté de La Roseraie, et les filles se sont inclinées, elles, à l'extérieur, du côté de Marc-en-Barœul, dans le nord de la France, 3-7 à 0 également. Mais pour elles, le maintien est déjà acquis. Il va y avoir un match à domicile et il va y avoir aussi des rencontres un peu plus abordables pour ces dernières. On va évoquer aussi ce qui s'est passé en hockey sur glace avec les Ducs d'Angers. Est-ce que Mathéo, tu as envie de dire un mot à Dussu ou à Maury, si vous avez des choses à dire sur les Ducs d'Angers, sur la performance des Ducs?
On peut dire que ça se passe très très bien pour l'instant face à Bordeaux qui est une équipe à battre forcément pour arriver en finale. On sait que ça reste l'objectif principal du club forcément au vu de la saison et puis tes dernières performances ou contre-performances les saisons précédentes.
C'est ça.
C'est vrai que c'est une très belle chose de réussir en plus à garder cette forme après la victoire en coupe. Donc très content pour cette équipe d'Angers qui continue de nous surprendre.
Bah, qu'ils nous fassent le doublé, on va y croire, on va espérer en tout cas.
Ah oui, c'est très grandiose.
Et un dernier match qui a pas été simple, hein, mener 2-0 dans la première manche. Ils reviennent à 2-2 seulement dans la dernière, en mettant leurs deux buts dans la dernière manche, et derrière victoire en prolongation. Donc c'est magnifique. Il faut aller gagner là-bas, ce serait bien d'aller en prendre au moins un là-bas.
Et là tu joues maintenant à domicile, hein, Angers-Bordeaux ce soir à 20h15.
À Bordeaux. Les deux premiers matchs étaient à Angers.
Donc ça sera c'est une erreur, c'est une coquille de la presse locale en tout cas. Mais pour l'instant les Ducs mènent 2-0 et la coquille est là, donc du côté de Bordeaux.
Voilà. Match à 20h15 du côté de Bordeaux ce soir, et le 19, donc le 19 ça doit être demain exactement.
En espérant qu'il n'y ait pas un retour du côté de l'Ice Park, comme un peu on avait vu ce retour du côté de l'Ice Park face à Chamonix.
Il faudrait au moins en prendre un du côté de Bordeaux pour être bien pour cette fin de série.
Et ça serait même bien de se reposer et de prendre les deux ce soir.
Ça serait magnifique.
Et de prendre un peu de temps, d'avoir un peu de temps pour pouvoir,
préparer cette finale.
Voilà, tranquillement. Ça va être grandiose. Je pense que espérer se doubler, ça serait quand même une grande chose pour espérer cela du côté de la ville d'Angers. Parce que bon, pour la ville, ça serait aussi incroyable de voir, en espérant faire le lien, on va faire avec eux vite fait, là, rapidement, et on va quand même en parler très longuement quand même. Mais le lien avec un club en Ligue 1, de garder Angers en Ligue 1, d'avoir les Ducs en hockey qui vont performer et vont être champions de France, on espère, on y croit. Après le doublé avec la Coupe de France, Mathéo, ce serait quand même un symbole pour cette ville sportive quand même.
Bah, ce serait bien, et puis surtout ça montrerait aussi que les projets à Angers sportifs fonctionnent. Donc forcément ça c'est du positif, même du point de vue extérieur à la ville, et puis même pour des projets plus petits, forcément ça donne de l'espoir aussi sur le plan sportif. Donc c'est une très belle chose, ça fait rayonner la ville, et on est très content de ça.
Ouais. Et puis on va en parler maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour le SCO. Malheureusement c'est une défaite ce week-end, une nouvelle défaite face à Monaco. Ça commence. Après, voilà, c'est ce qu'on se disait dans l'émission il y a quelques semaines. Malheureusement, le calendrier aussi faisait que t'allais affronter des grosses équipes du côté de Copa, mais pas seulement, aussi en déplacement à l'extérieur pour certains ou certaines équipes. Mathéo, le constat est là, c'est que pour l'instant, le SCO est dans le dur.
Bah oui, ça c'est évident, c'est le constat qu'on peut faire. On avait commencé à en parler forcément, comme t'as dit, dans l'émission, de ce calendrier très compliqué. Match face à Monaco, qui est une équipe qui retrouve un certain bien-être sur le terrain, avec notamment un recrutement cet hiver qui a bien fonctionné, l'arrivée de Biarritz qui performe plutôt bien, qui n'a d'ailleurs honteusement pas eu son trophée de joueur du mois en Ligue 1.
Oui, je.
voilà, on va pas revenir là-dessus. On va plutôt parler de la performance.
Amaury est content.
Non, franchement, c'est pas ça qui. Non, mais je savais plus qu'il l'avait eu d'un coup et je me suis rappelé. Bah oui, c'est pour ça, je m'en suis rappelé.
Le très marseillais Amine Gouiri. Ouais.
Quand on m'a regardé, j'ai fait ah ok, c'est vrai que c'est lui.
Non, mais on avait quelques changements hein, dans ce 11 du SCO, ce 4-2-3-1 un peu habituel du jeu, notamment en défense avec là aussi le retour de Bamba qui commence à rempiler un petit peu les matchs. C'est pas non plus négatif tellement sur le terrain, malheureusement les résultats ne suivent pas quand il est titulaire, donc c'est un constat qui est un peu dommage à faire. Retour de Ferra aussi dans le 11 qui a pas été très 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 flamboyant. Mais au-delà de ça, c'est surtout une équipe d'Angers très peu inspirée hein, qu'on observe sur le terrain. C'était quelque chose qu'on voyait plutôt sur les dernières rencontres à peu près à partir du match contre Saint-Etienne. Il y a sans doute quelque chose qui s'est passé, un mauvais déclic dans les têtes avec ce 3-3 où tu menais 2-0. Voilà, ça reste plutôt compliqué. Il y a vraiment un manque d'envie claire hein, sur le terrain quand on voit là ce qui s'est passé contre Monaco. Le SCO a fait une forme de non-match. Il y a juste à voir le momentum hein, pour ceux qui n'ont pas regardé la rencontre de ce qui s'est passé. Voilà, nette domination des Monégasques qui s'impose très logiquement et ça va être très dur dans la course au maintien jusqu'à la fin. Le SCO a 4 points d'avance sur
c'est ça, exactement.
Reims. Donc logiquement
sur Reims et bientôt Saint-Etienne, parce que je pense que ce match contre Montpellier, je vois pas.
Il va être gagné.
Tu menais 2-0, il s'arrête.
C'est les supporters de Montpellier qui font le truc. C'est donc Saint-Etienne menait, il y a pas.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que pour l'instant le SCO aurait potentiellement, on va parler au conditionnel, mais 4 points d'avance sur Reims, en tout cas ça c'est sûr, mais aussi peut-être potentiellement sur Saint-Etienne. Le Havre serait à 6 points derrière, mais attention, ton calendrier va, on va en parler dans quelques instants.
Reims c'est un calendrier compliqué aussi.
Ouais, Reims aussi un calendrier. Ouais. Amaury, sur le match entre Angers et Monaco, même si t'as peut-être pas forcément vu toute la rencontre ou la rencontre dans son entièreté, qu'est-ce que tu penses de ce résultat?
Non, mais moi je vais revenir déjà sur ce match contre Saint-Etienne. Au moment du match, je me suis dit, j'espère qu'on va pas le regretter, ce 3-3, alors qu'on menait 2-0, en se disant on a un peu de points d'avance, ça va le faire. Aujourd'hui, je commence déjà à le regretter. Faudrait pas qu'on le regrette pleinement en fin de saison. Sache quand on voit le calendrier qui arrive, on parle d'un match. D'un mauvais match hein, du SCO, je me rappelle plus le terme que tu utilisais, mais c'est le troisième de suite qui est vraiment dans cette trempe-là hein, quand c'était Brest et Toulouse, c'était du même type, hein, vraiment complètement dominé de bout en bout. Là, j'ai vu des Angevins qui reculaient beaucoup, les défenseurs qui reculent, un milieu surpassé. C'est vrai que ça fait peur. Alors, il y a toutes ces émotions, cette fatigue mentale certainement et physique hein, de ces mois de janvier et de février avec la Coupe de France. Il y a la trêve qui arrive. Elle peut faire que du bien au SCO actuellement. Maintenant, il va falloir réussir à repartir sur de bonnes bases, sur des bonnes bases qu'on a vues depuis le début de saison par moment pour bien finir ce sprint final, parce que 4 points, c'est pas beaucoup.
Est-ce que messieurs, là tu as évoqué la Coupe de France, est-ce que cette élimination en Coupe de France aurait pu laisser des traces dans les esprits? Alors oui, dans les organismes, forcément, parce que tu as enchaîné les rencontres et tu n'étais pas forcément préparé à cela, mais est-ce que dans les esprits, dans les têtes, est-ce que cette élimination a pu jouer?
Forcément, que ce soit le résultat contre Saint-Etienne ou celui donc contre Reims en Coupe de France, ça a joué parce que le SCO s'est permis de rêver, je pense, plus que ce qu'il aurait pu se permettre en début de saison, parce que 2025 a été une année très intéressante. On a des joueurs en plus comme Esteban Le Poll qui ont entre guillemets explosé. Alors nous, on connaissait ses qualités forcément, mais le voir planter autant en Ligue 1, être aussi impactant dans le jeu, c'était vraiment ce joueur qui manquait et dont on parlait en plus en début de saison. Ce rôle de numéro 9 mobile, facilement trouvable dans le cœur du jeu, donc ça c'était vraiment des bonnes satisfactions. Et puis derrière, l'élimination a fait mal, l'élimination a fait mal et derrière se ressent fortement dans le jeu du SCO qui est beaucoup plus stéréotypé. Il y a beaucoup moins d'idées, même les créateurs se font moins impactants. Je pense forcément à Abdelli, mais même El Melali, je me rappelle d'un match, alors ça devait être un peu avant Saint-Etienne, où les commentateurs de DAZN parlaient de lui comme l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 et on avait ces statistiques qui faisaient de lui l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1, c'était factuel. Aujourd'hui, on a perdu un petit peu cette énergie dans tous les joueurs. Alors, c'est aussi, je pense, symptomatique d'une saison qui est quand même assez longue. La Coupe de France a aussi pas mal pesé sur le mental des joueurs, ça c'est évident, parce qu'en plus, derrière, c'était plutôt ouvert, hein, puisque Reims joue contre Cannes, si je dis pas de bêtises.
Oui, Dunkerque PSG.
Ouais, c'est ça. Donc,
PSG, Dunkerque ou Dunkerque PSG, je sais plus.
On pouvait avoir une finale avec le SCO au Stade de France, donc forcément il y a un petit regret, surtout au vu en plus des résultats récents de Reims qui n'y arrivent toujours pas. Reims, c'est vraiment très compliqué pour eux. Ils ont été chercher cette victoire face à Angers par les individualités purement et simplement, ça on l'avait déjà dit aussi. Donc oui, forcément, ça pèse dans les têtes. Et là, il y a vraiment un mou. Donc j'ai hâte de voir ce que ça fera, parce que l'après-trêve va forcément être important. C'est obligatoire. Voir comment le SCO va réagir avec un petit peu ce temps de repos, que ce soit pour les têtes ou pour le corps, le physique. Donc, à devoir.
Ouais, à devoir. Vas-y.
Tu parlais de ce match de coupe qui pèse. Moi, je pense que oui, il a pesé. Mais le match qui pèse peut-être encore plus, c'est celui qui vient juste après face à Toulouse, où t'es censé de te remettre justement de cette défaite en coupe, de relancer en championnat, et tu fais un match où t'es inexistant, peut-être l'un de tes pires matchs de la saison, où il faut revenir autrement au tout début de saison, là où on critiquait à juste titre le SCO, et tu prends 4-0 contre Toulouse, et je pense que ce match-là est cumulé évidemment à la défaite en coupe, mais ce match-là où t'étais censé te relancer et garder ta bonne dynamique, et ça vient t'achever un petit peu. Je pense que c'est l'enchaînement qui vient de tuer. Et derrière, bah là, t'enchaînes les mauvais matchs. Donc la pause peut faire que du bien, ces deux semaines de travail. On est dans un club où il n'y a pas énormément d'internationaux. Ouais. Donc on va pouvoir travailler. Mais peut avoir des retours de blessures, des joueurs qui vont revenir à 100%. Esteban Le Poll n'était pas encore à 100%, par exemple. Mais voilà, ça va permettre ça. Maintenant, là, on l'a dit.
Tu parles du match contre Toulouse. Je pense que le match contre Toulouse, il n'a pas été assez bien préparé aussi. Peut-être par manque de temps, mais aussi parce que Toulouse, c'est une équipe vraiment compliquée à
manier.
Ouais, c'est ça, exactement. Faut vraiment bien voir poste par poste. Enfin, c'est très compliqué, hein, cette équipe de Toulouse qui fonctionne avec un collectif assez intéressant et puis toujours un recrutement. Voilà, quand c'est arrivé, quand Toulouse est remonté en Ligue 1, on parlait de la data, beaucoup de la data. C'est quelque chose qui reste quand même dans le cercle toulousain encore aujourd'hui. Mais juste, je voulais rajouter par rapport au match de Coupe de France, qu'en fait, ça a vraiment été les prémices aussi, parce que c'était hyper visible dans le jeu. Le but de Nakamura, le premier but qu'on prend sur l'action, il me semble, Ito, il loupe une première face à passe, il loupe une deuxième fois. Et au final, il arrive à la donner quand même. Ça, c'est quand même assez symptomatique. On dit toujours dans le football, l'équipe qui a les contre-favorables, c'est celle qui est supérieure, que ce soit mentalement ou même dans la physionomie de la rencontre. Ça a vraiment été le cas. Et derrière, c'est les prémices du, entre guillemets, début de vide qu'on peut ressentir dans le jeu des enjeux.
Et là, t'as un gros vide, parce que sur les trois derniers matchs, tu plantes pas un but. T'en prends 8 sur 3. Tu peux même aller sur le match de Saint-Etienne, tu prends 11 buts sur les 4 derniers matchs. Et t'es quasiment à 3 buts par match encaissés.
Et oui, ils auraient pu en prendre plus. Que ce soit Brest ou la Monaco en première période, il y a 2-0 à la mi-temps, personne n'est choqué.
Oui, bien sûr. Donc,
c'est rééquilibré aussi parce qu'à Toulouse, pour le coup, tu dois pas forcément en prendre 4 à domicile. Sachant qu'en plus, il y a deux buts où à l'origine, il y avait une faute. Alors ça, c'est pareil, c'est discutable et je remets pas ça en question. Mais du coup, forcément, c'est un peu des buts qui ne reflètent pas réellement, même si le SCO a été dominé de bout en bout et dès la première minute d'ailleurs, avec cette belle occasion et ce débordement toulousain.
Ouais, mais j'espère qu'ils vont trouver des solutions assez rapidement, parce que du coup, l'objectif, d'accord, c'est de prendre des points, mais avant de prendre des points, d'espérer prendre des points, c'est quand même un marqué, parce que du coup, sur les trois des matchs, t'en marques pas un, et aussi d'en prendre le moins possible.
Et bien défendre.
On prend moins que l'adversaire que tu vas en mettre, donc c'est assez compliqué. Les prochains matchs sont sur le Stade Rennais, messieurs.
Ouais.
Et ensuite, le Paris Saint-Germain, donc
au Parc des Princes.
Pourquoi pas faire tomber le Paris Saint-Germain pour la première fois de la saison?
Ah oui,
ça serait beau. C'est vrai. Une très très belle histoire, par contre.
Au bout de 28 journées.
Ouais, ça serait incroyable. Ça serait incroyable que le SCO soit l'équipe qui
arrache son maintien sur une victoire face à Paris que personne n'a battu cette saison.
Ouais, voilà, que tu sois la seule équipe qui fasse tomber le Paris Saint-Germain. Bon, d'abord, on va prendre match après match.
Ouais,
le match contre Rennes, selon vous, on sent que aussi l'équipe rennaise est malade, hein. Il y a eu donc trois entraîneurs différents depuis le début de l'année du côté du Stade Rennais. Maintenant, c'est Habib Bey qui est aux commandes. Lens s'est incliné face à Lens ce week-end. Bon, je suis satisfait du résultat, mais bon, je pense que Rennes aurait mérité avec quelques faits de jeu. Autre chose.
Ouais, Rennes, une équipe malade, mais qui, depuis l'arrivée de Bey,
reprend des couleurs, exactement.
Ça a battu les petites équipes, ça a battu Saint-Etienne, ça a battu Reims, ça a battu, ouais.
À la moindre température, on va dire. Elle est malade, mais à la moindre température.
Contre Paris, le 4-1, il est sévère. Après, ce week-end, j'ai pas pu voir le match du tout, mais si tu dis que...
Bon, ils auraient espéré mieux.
Voilà.
Ils auraient pu avoir mieux.
On est sur une bonne période pour Rennes. Donc, alors, il y a aussi la trêve qui peut, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, une trêve, ouais. Hein, ça peut aussi couper un petit peu dans une dynamique. Donc, mais ce sera pas un match simple hein, pour le SCO, et certainement peut-être un peu plus que celui qui attend, qui arrive juste après, mais ce sera pas un match simple non plus.
Bah, c'est vrai que Rennes, pour le coup, on l'a dit, c'est une équipe qui se stabilise un petit peu. Ça reste compliqué. Hein. Il y a beaucoup de lacunes un petit peu partout. C'est surtout en interne que ça va mal à Rennes. Que ce soit, on l'a vu dans le recrutement, lâcher 25 patates pour Fofana, ça a été quand même un petit mystère. Donc voilà, c'est quand même symptomatique aussi d'un club qui doute. Malgré ça, sur le terrain, c'est quelque chose qui se ressent pas forcément contre les petits, comme vous avez dit, vous deux. Donc je sais pas comment prendre ce match. Je sais pas. Peut-être que sur 90 minutes tout est possible avec le SCO. On nous l'a montré un petit peu depuis le début de la saison. On a moins d'espoir parce que on peut moins se permettre de rêver avec toute la fatigue qu'on a aujourd'hui au sein de l'effectif. Mais pourquoi pas, cette équipe de Rennes reste quand même prenable. Je pense que c'est pas une équipe du niveau européen qu'elle devrait avoir. Donc logiquement, tu peux aller chercher des points face à Rennes, au moins un.
Bah, faut espérer, c'est clair. Ça sera le 30 mars prochain, 17h15, à Maury. Sur Rennes, du coup.
Sur Rennes, après. C'est, oui, ce que je disais, c'est une équipe qui va mieux. Maintenant, prendre un point, ce sera, tous les résultats sont possibles. Enfin, ça dépend vraiment de l'équipe de Rennes qu'il y a. Et de si Angers a réussi à bien travailler, à se remettre la tête à l'endroit pendant cette trêve. Parce que, en fait, peu importe l'équipe de Rennes qu'on a, si Angers joue comme ils ont joué depuis trois matchs, ça va être très compliqué.
Ouais, ça sera très, exactement.
On a intérêt de revenir comme on était en janvier-février. Et si on joue comme en janvier et début février sur cette fin de saison, ça devrait le faire pour le maintien.
Surtout que tu joues un concurrent direct au maintien, en plus, parce que Rennes est 12e, Angers est 14e, il n'y a que deux points d'écart entre les deux équipes.
C'est vrai que Rennes n'est pas remonté autant qu'on pourrait l'imaginer sur la dernière rencontre.
C'est assez incroyable de se dire quand même que cette équipe-là, avec l'investissement comme tu dis, soit aussi bas au classement. C'est quand même incroyable de voir ce genre de choses, quoi.
C'est la gestion des cas qui a été très décevante, surtout cet été, parce que le recrutement pour le coup de cet été était un peu surpayé, un peu surfait, mais intéressant quand même dans les profils que t'es allé chercher. Et puis au final, moi je suis extrêmement déçu de la gestion d'un Jota, par exemple, qui était une recrue hyper intéressante. Hein. Jota, c'était un énorme joueur au Celtic. Il s'est un peu perdu en Arabie Saoudite. Et derrière, tu le fais venir pour 15 millions. C'est quand même une plutôt bonne prise. Et tu le fais pas beaucoup jouer. Alors oui, il est pas intéressant, mais parce qu'il est pas mis dans les meilleures conditions aussi. Et derrière, là, tu le revends cet hiver au Celtic encore et tu perds de l'argent. Donc ça, c'est un cas parmi tant d'autres.
Et le Celtic, on a gagné du coup.
Bah exactement. Et puis même Grundbeck, il est parti. Là, il commence à faire des matchs intéressants. Donc il faut se poser les questions aussi, sur les investissements réels à Rennes.
Ou peut-être de laisser du temps aussi à des joueurs aussi de s'installer et de
bien sûr.
Voilà, parce que du coup, je pense que et après tu prends un Fofana qui revient d'Arabie Saoudite. N'était pas forcément meilleur de sa forme.
Et puis il était peut-être pas dans l'optique aussi de faire un retour en Ligue 1 un jour au top niveau.
Je pense pas. Mais bon, ça. À suivre pour le SCO. Donc là, c'est le 30 mars, on le disait, pour le match contre Rennes. À suivre, il y aura le match contre Paris au Parc des Princes le 5 avril prochain. Tout en sachant que potentiellement ce match aussi pour les Parisiens peut être synonyme de titre, hein, parce qu'en fonction de ce qui va se passer, ils peuvent être titrés dès la 27e journée. Même si je pense que pour la 28e, ce sera peut-être plus probable de voir le Paris Saint-Germain titré en fonction des résultats des adversaires, mais ça peut être un match du titre pour le Paris Saint-Germain contre le SCO. Donc j'ai du mal à croire, à espérer en ta comment dire, à ton pronostic, Mathéo, de voir peut-être une victoire du SCO. Ce que vous disiez tout à l'heure, potentiel de voir le SCO battre le Paris Saint-Germain et de mettre fin à cette série d'instabilité. Ça paraît compliqué.
Ouais, ça, voilà, on a les mêmes mots. Ça paraît difficile, sachant que le SCO, le PSG a jamais vraiment réussi à Angers. C'est logique, forcément. On parle du Paris Saint-Germain aussi, mais il y a certains petits clubs qui ont pu faire des choses. Je pensais à Dijon, à l'époque où le club était en Ligue 1, qui faisait régulièrement des choses, qui se prenait parfois des volets aussi. Mais c'est tout le jeu de notre bonne vieille Ligue 1 et du bas de tableau. Mais le SCO, si je pense aux résultats récents, n'a jamais battu le PSG depuis sa remontée en Ligue 1. N'a jamais vraiment fait de bons résultats. Le dernier que j'ai en tête, c'était le 0-0 quand on est remonté. Donc ça commence à dater, ça commence à faire. Et puis il avait fallu un Ludovic Butel héroïque.
Des grands soirs.
Donc on parle d'une époque qui semble révolue au SCO. Exactement. Ça paraît compliqué. Par contre, le rendez-vous à prendre absolument, c'est le match contre Montpellier.
C'est le 13 avril. J'allais évoquer juste à suivre. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Mathéo. C'est vrai que ce match contre Montpellier, le 13 avril prochain, sera décisif dans cette course au maintien. de garder cette longueur, de prendre des points face à l'équipe la plus faible du championnat, on peut le dire maintenant. Parce que bon, c'est vrai que
Montpellier, je pense que Montpellier ne reviendra pas sur Angers de toute manière.
Ouais, dans tous les cas, ouais.
Mais Nokia, c'est peut-être pas un match à 6 points vs Montpellier, mais en tout cas, oui, prendre des points là, c'est.
Je pense que ça en est un. Ça en est un dans le sens où un match à 6 points, oui, dans la logique des choses, c'est face à un concurrent direct, donc un concurrent qui a peut-être 3 points d'écart avec toi, qui peut revenir à ta hauteur. Mais là, pour le coup, quand on voit le calendrier des autres, prendre 3 points sur le nôtre, c'est un match à 6 points.
J'allais dire, mais ça reste un match ô combien important quand on voit, c'est l'un des seul match où le SCO sera entre guillemets favori sur cette fin de saison.
Ouais, c'est même le seul. Hein.
Bah, c'est le seul parce que du coup
le dernier on peut prendre des points, c'est ça, bon, c'est Nantes. Ouais.
C'est Nantes, voilà, c'est à Nantes.
Donc, Nantes oui, qui fonctionne bien en ce moment.
C'est vrai, mais c'est vrai que dans son malheur, en fait, le SCO a bien performé en fait juste avant, heureusement d'ailleurs, d'avoir pris des points au moment où il le fallait, oui. Parce que là, la suite elle est terrible pour eux. Tu joues que des concurrents. Ils veulent jouer l'Europe, quoi. À part Rennes dans la truc, mais enfin, Rennes et Nantes et Montpellier. Mais tu vas jouer Lille, tu vas jouer Nice, tu vas jouer Paris, tu vas jouer Monaco, tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Strasbourg qui peut encore accrocher une 7e place et potentiellement donc une place qualificative pour la Conference League. C'est monstrueux le calendrier du SCO. Et vraiment, s'ils arrivent à s'en sortir, vraiment, je vais pas dire que je vais prendre un abonnement au SCO l'année prochaine. Mais j'irai les voir encore plus souvent parce que ça sera en Ligue 1, parce que vraiment, s'ils arrivent à se sortir de ce calendrier, c'est quand même incroyable.
Et le tout avec une fissure dans le crâne en plus assez forte par rapport au match précédent. Le calendrier s'est vraiment mal goupillé pour le SCO et c'est assez terrible. Ouais.
Maintenant, ce qui fait que le SCO a aujourd'hui 4 points d'avance sur ces équipes-là, c'est sa capacité à avoir pris des points aussi sur face à des équipes un peu plus fortes, Monaco à cette victoire, ce match nul au Vélodrome.
Oui, important. Ouais.
C'est ces points-là qui font que le SCO aujourd'hui est devant, parce que sur les comptes des petits, ils sont, c'est à peu près,
c'est ça, c'est clair.
À peu près ils échouent. Donc, pourquoi pas aussi aller, peut-être pas aller battre, forcément les grosses équipes, mais au moins aller chercher un petit point par-ci par-là, et c'est ces points-là qui à la fin font la différence.
Après, tu prends des points face à Monaco qui commençait à douter à l'époque. C'est plus le rouleau compresseur qui était en début de saison.
Mais ça reste une équipe où les individualités sont.
D'accord avec toi, je suis d'accord avec toi.
C'est
aussi
ce qui a lancé, et en fait, c'est ce qui a permis de lancer cette saison, ce match nul au Vélodrome pour le SCO, et derrière cette victoire très rapidement après, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Ça a lancé toute cette bonne série pour le SCO après deux premiers mois.
Bien sûr. Ça a montré que le SCO, malgré l'effectif, était capable de faire de belles choses et c'est très bien. Mais là, pour le coup, il y a peut-être un peu trop d'enjeux. On verra. Moi, je suis pas vraiment optimiste sur les matchs contre les clubs qui sont quasi européens.
Ces équipes-là, en fin de saison, elles sont encore plus dures à prendre parce qu'elles sont complètement rodées et en plus, il y a elles aussi. Tous les points comptent et elles sont pas prêtes à en laisser.
Ah oui, parce que pour le coup, même la deuxième place, elle est pas acquise pour Marseille. La troisième, on sait pas qui va l'avoir. La quatrième non plus, cinquième non plus.
Jusqu'à la septième place.
Quasi huitième, hein.
Ouais, non, mais c'est,
faut attendre la fin de saison de voir comment ça va se passer. Je pense que d'ici la fin avril, tu sauras ce qui s'est passé.
Ça reste impronosticable, c'est du football.
Voilà, fin avril, c'est cinq prochains matchs, hein. Donc, on le disait avec le calendrier. Donc, Rennes, Paris, Montpellier, Nice et Lille. Mais après, bon, voilà, fin avril, tu sauras où t'en es réellement, et tu sauras aussi où en sont réellement les autres concurrents, que ce soit au maintien ou même vers les places européennes, et là, tu pourras te dire, bon, bah, écoute, tu pourras espérer de voir une équipe lever un peu le pied en face de toi, mais bon, enfin, Nantes-Angers, ça va être l'un des derniers matchs de Nantes en Ligue 1 cette année, en tout cas cette saison. Donc, je pense que devant leurs supporters, ils auront peut-être forcément envie de remporter ce derby du Pays de la Loire, même si, les Nantais se considèrent en Bretagne et que pour eux le derby c'est plutôt Rennes qu'Angers, mais voilà. Et après t'as plus qu'à espérer que Strasbourg et Lyon soient déjà qualifiés pour une compétition européenne ou alors hors course, quoi.
C'est ce que j'allais dire. Mathéo, il va avoir un dernier match à vivre,
légendaire.
Le Lyon Angers, avec Lyon qui joue sa qualif pour la Ligue des Champions et Esco qui joue le maintien sur le même match.
Ouais, bah écoute, je vais être content dans tous les cas. C'est ça qu'il faut.
Il va falloir se mouiller la nuque pour toi quand même. C'est vrai que c'est le match à ne pas rater.
Un peu au Groupama Stadium en plus, mais Lyon réussit bien pour l'instant depuis l'arrivée de Fonseca contre les petits clubs. On va pouvoir reparler de l'OL dans la deuxième partie de l'émission, mais c'est vrai que là le rendez-vous va être d'autant plus compliqué que l'OL est une équipe difficile à prendre de part, encore une fois, comme on l'a vu ce week-end, la profondeur de banc pour les petits clubs qui jouent le maintien. Ça fait partie un peu des concurrents déloyaux entre guillemets avec certaines autres grosses équipes. Oui, ça va être compliqué pour le SCO et voilà, on espère voir quand même de belles choses sur le terrain au minimum.
Est-ce qu'on propose une petite pause musicale à nos auditeurs dans quelques instants? Je lance à Maury pour le résultat du week-end. Pendant que tu nous cherches une petite musique ou pas?
Je l'ai déjà.
Tu l'as déjà?
Ouais, je l'ai déjà.
Eh ben vas-y, je te lance, c'est toi qui lance le titre, vas-y Mathéo.
Eh bien, j'annonce California Dreamin' de The Mamas and the Papas, forcément, sur le 101.5 FM de Radio G, on revient tout de suite.
California Dreamin', The Mamas and the Papas sur Radio G, sur le 101.5. Et puis, on va se diriger vers la suite des résultats de Ligue 1, avant aussi d'évoquer ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On a enfin nos huit quarts de finalistes de Ligue des Champions. D'Europa League aussi, parce qu'on va en parler avec toi Mathéo.
On va parler de tous ces tirages,
ah, bien sûr,
ces confrontations, et puis principalement aussi surtout des clubs français. Ouais. Peuvent-ils aller au bout? Ça va être un petit peu la question récurrente pour ces deux coupes d'Europe. Ouais. Voilà, on va se permettre de rêver, mais avant ça...
Moi je rêve.
Moi aussi, forcément. Bon, on va dire que je suis lyonnais, donc je vais garder certaines choses.
Bien sûr.
Mais avant ça, on va rester sur le territoire français, en revenant donc sur les résultats de cette dernière journée de Ligue 1 avec vendredi. On commençait par un Nice-Auxerre. Nice toujours dans la course à l'Europe, hein, à la Ligue des Champions, qui après la défaite face à l'OL la semaine dernière se devait de rebondir et ça n'a pas été le cas. Match nul, un but partout à Nice.
Mauvaise opération
et Auxerre continue de jouer des tours au gros club français.
Hein. Ouais, c'est assez impressionnant de voir cette équipe.
T'en penses quoi, Amaury?
Non mais Auxerre, je ne comprends pas. J'en ai déjà parlé dans l'émission, mais incapable de battre les derniers dans les derniers au classement. À chaque fois, c'est des défaites ou des matchs nuls. Et puis en fait, face aux membres du top 7, top 8, il y a quasiment pas de défaites. C'est quand même vraiment fou la saison d'Auxerre. Ils sont pas si bien classés que ça. J'ai pas suivi dernièrement si c'était
11e.
Mais ils ont pas énormément d'avance finalement face au club. Ils vont pas descendre. Non, ouais. Mais ils ont pas énormément d'avance. Alors que quand on regarde leurs résultats face aux membres du top 8, c'est fou.
Et les mecs te prennent un point là, encore à la dernière seconde là. Donc, c'est...
Non mais quel club y est pas passé? Monaco y est pas passé. Mais sinon Lyon, ça a perdu des points, je crois. Marseille, ça a perdu des points. Nice a perdu des points. Paris a perdu des points. Lens a dû perdre des points. C'est
tout... Ils ont perdu des points contre le monde. Voilà.
Mais non, mais tous les gros, ils sont passés quasiment. Je crois, sauf Monaco, de ce que j'avais retenu. Donc voilà.
Ça, c'est dû à un recrutement aussi. On l'a dit, on l'a répété à chaque fois, mais on le martèle quand même encore et toujours que le recrutement d'Auxerre a été très intéressant. Oui. Sur cette saison, en tout cas, on verra la saison prochaine parce qu'on a pas mal de joueurs prêtés, notamment donc de Wolverhampton avec Weaver ou encore Junior Amad Traoré de Bournemouth. On va continuer donc avec les résultats de samedi. Là aussi, un autre club engagé dans la course à l'Europe, ennemi de notre Flo, le LOSC.
Oui.
S'est incliné à la Beaujoire, 1-0. Là aussi, encore une fois, grosse surprise de ce week-end.
Ouais, sale semaine pour le LOSC. Et je vous avoue, même si bon, je suis supporter non soi et j'étais un peu désabusé pour eux pour la Ligue des Champions parce que je pense que il y avait largement la place pour eux face à Dortmund et après encore une fois, je trouve que et pourtant je suis supporter non soi donc je défends quand même les voilà. Je me dis que bon, le penalty est quand même très litigieux, qui a été sifflé en faveur de Dortmund. Le truc, c'est que voilà, et chaque semaine, je suis prêt à le demander hein, jusqu'à la fin de l'année, d'avoir de la continuité, mais peut-être de que les décisions soient les mêmes à chaque fois. Si tu siffles le penalty donc là contre Dortmund, tu siffles le penalty une semaine avant pour Paris contre Liverpool, et tu peux même siffler un penalty pour Rennes contre Lens pour le même type de faute ce week-end. Donc j'aimerais bien que les arbitres soient aient un peu plus de continuité. Moi je suis prêt à les défendre surtout sur plein de choses, mais s'il vous plaît, ayez un peu de continuité et dans vos décisions qu'elles soient un peu les mêmes quoi.
On va reparler d'arbitrage oui. Sur la journée de dimanche. Avant ça donc le SCO s'est incliné à domicile face à Monaco et puis Lens a gagné, a battu Rennes, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de revenir un petit peu sur cette rencontre Flo?
Bah non, mais c'est une victoire je me suis fait chambrer dans mon boulot de tous les jours sur les derniers résultats du SCO, enfin de Lens je veux dire par mes élèves et bon je leur ai dit voilà deux victoires sur les deux derniers matchs, ça me suffit, c'est très bien, c'est très minime en plus comme résultat, c'est 1-0 à chaque fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon bah c'est une équipe qui est dans le dur, c'est très difficile. Elle s'en sort très bien. Je pense qu'on peut dire merci à Madame Frappard.
Six points en deux matchs là, franchement.
Ouais, surtout contre Marseille, s'il y a 0-0, enfin s'il y a match nul, c'est très bien. Et là contre Rennes, enfin si Rennes gagne, c'est aussi très bien. Je pense que Madame Frappard, il y a quelques décisions et la VAR aussi notamment aurait pu siffler en faveur de Rennes. Lens s'en sort très bien, la roue elle tourne parfois, comme disait Franck Ribéry. La roue tourne. La roue tourne à tourner, exactement. Et puis, on va voir la suite de la saison pour le Racing Club de Lens. L'essentiel est de finir dans les 10 premiers pour essayer d'avoir le maximum d'argent au niveau des droits télé, même si t'en auras pas beaucoup. Mais voilà.
Lens qui est à 4 points de l'Europe quand même, puisqu'on rappelle que la 7e place devrait logiquement être qualificative pour la Conférence League.
Oui,
laisse-moi croire à Cannes en Europe.
Non, mais après, en fait, ouais, c'est pareil. C'est que pour Lens, il y a un match décisif. Le prochain match, c'est le derby, c'est Lille-Lens. Après, ton calendrier est quand même beaucoup plus abordable. Tu joues Saint-Étienne, tu joues Reims, tu joues Auxerre, tu joues Toulouse, tu joues des équipes qui normalement sont abordables pour toi sur des rencontres. Donc techniquement, oui, tu peux encore croire à ça, mais la finale, elle est contre Lyon au mois de mai. Si vraiment tu crois encore à l'Europe, ça sera à ce moment-là. Mais tu seras jamais à la hauteur des Lyonnais, mais si tu veux encore croire à quelque chose, c'est à ce moment-là.
On peut être étonné avec l'Olympique Lyonnais. On a failli l'être dimanche. Ça me permet une transition. C'est gentil. On a failli l'être dimanche avec donc ce match face au Havre. Ouais. Le Havre qui menait jusqu'à tard dans la rencontre, jusqu'à la 78e. Donc, ce but de Malik Fofana. Victoire finale 4-2 de l'OL avec ce tournant, puisque l'OL a pas comme à son habitude marqué très tôt dans la rencontre autour de la 17e minute. De la 22e, pardon, sur penalty.
Avec la casette
et derrière ce penalty sifflé pour l'Avray, on est obligé forcément de revenir dessus quand même parce que c'est un des faits marquants du week-end. Flo, qu'est-ce que t'en penses de ce penalty?
Je trouve que c'est un scandale. Encore une fois, je le répète, je suis à fond derrière les arbitres, mais j'aimerais que cette VAR soit utilisée de la meilleure des manières et qu'à un moment donné aussi, on se retrouve à voir que y a pas penalty en fait, y a pas de contact. Tu vois que c'est accentué par le joueur Avray, donc. Enfin voilà, ça me dépite de voir en plus que c'est checké par la VAR, checké à la vidéo.
Longuement checké,
exactement.
5 minutes au moins.
Et ça, mon problème, c'est que j'aimerais en fait que fait, pour moi, ça n'aide pas les arbitres. Là, on n'aide pas les arbitres. T'as les vidéos, tu vois le truc, ça n'aide pas les arbitres. Et faudrait que j'envoie, je sais que c'est plutôt Faustin qui gère aussi tout ce qui est Instagram. Faudrait que je retrouve une vidéo sur Insta de Thierry Henry qui s'exprime là-dessus sur l'arbitrage et qu'il y a plein de choses à apprendre. C'était sur CBS, une émission américaine, et il le dit en fait que le foot a besoin d'apprendre des choses du rugby, notamment d'expliquer. Et tu vois, demain, je pense que si l'arbitre doit s'exprimer et s'expliquer sur une décision qu'il va prendre, je pense que bah du coup ce genre d'erreur là avec la vidéo et l'image qui apparaît, je pense que tu peux pas, cette erreur là ils la font pas. Non, c'est pas possible.
C'est impossible. Après ce qui était quand même dit et cité sur cette action là, même si je trouve là aussi que c'est litigieux, mais c'est le premier contact en fait, le genou est effleuré, derrière le joueur ne tombe pas du tout puisque manifestement c'est pas vraiment une faute. Derrière il se rend compte de ça, il se rend compte qu'il est enfermé et il saute tout simplement, il plonge. Et donc forcément l'arbitre aurait pu expliquer ça comme ça, et surtout qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé en fait, ce qui s'est dit à la VAR dans l'oreillette, parce qu'on a vu cette image en plus derrière de l'arbitre qui commence à annuler ce pénalty et puis qui finalement le donne après une sorte de check audio à la VAR. C'était assez bizarre, assez paranormal comme
Flo tout à l'heure me montrait justement le moment de la VAR. Il y a la vidéo de ce qui est dit à la VAR.
Tout à l'heure, j'ai trouvé.
Ah, t'as trouvé l'audio?
Mais donc, du coup, à la VAR, il dit il y a contact. Il y a contact, il répète plusieurs fois et donc du coup, il part du principe qu'il y a contact. Mais. C'est pas un contact qui permet de déséquilibrer et qui fait tomber. On voit bien. Il dit ouais, peut-être qu'il se jette, mais il y a contact. Mais non.
Et le contact qui est même à vitesse réelle, 2 secondes à minima avant le plongeon.
En fait,
plongeon.
Je pense que c'est le moment où les deux pieds du Havre se tapent. Il se trébuche lui-même au moment où il tombe un peu.
Oui, bien sûr.
Et je pense que c'est à ce moment-là où presque il dirait qu'il y aurait contact, parce que le premier contact, jamais on peut siffler dessus.
D'ailleurs, je tiens, pour que tu vas finir sur Lyon, Lyon-Le Havre, je tiens quand même à saluer l'honnêteté des dirigeants havrais qui n'ont pas déposé une réserve contre Lyon. En plus, il y a Thiago Almada qui marque en plus, donc du coup, non mais tu vois, tu perds ton match 4-2, t'es en galère toute la saison, et franchement, l'honnêteté en disant voilà, on va pas porter une réserve parce que le transfert a été validé par la ligue et par et au final. Donc, franchement, je tiens à saluer. J'espère que d'autres clubs suivront, que d'autres clubs ne vont pas déposer une réserve contre l'Olympique Lyonnais parce que Thiago Almada joue. À un moment donné, le transfert a été validé, c'est bon. Voilà.
Non, mais c'est vrai, c'est bon de le rappeler. Et puis, c'est dommage que la classe, pour l'instant, en tout cas depuis le transfert d'Almada, n'arrive que par les petits clubs, entre guillemets. Maintenant, moi, j'aimerais quand même revenir une dernière fois sur ce penalty pour stipuler quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un football de plus en plus caricatural, quand même, sur la forme. Et c'est vrai que là, récompenser une simulation et un plongeon. Je veux dire, depuis qu'on a la VAR, par exemple, les plongeons qui ont pu être faits, notamment par un certain Luis Suarez, pour le plus connu d'entre eux, hein, qui ne faisait pas que ça. Attention, hein. C'était un joueur génial, grandiose, mais c'est quand même quelqu'un qui était connu aussi parfois pour avoir ce genre de choses qu'il démangeait. Là encore une fois,
autre chose.
Oui, aussi. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Un joueur assez problématique finalement. Mais un joueur génial. Mais pour le coup, c'est vrai que récompenser ce football caricatural, ces plongeons, c'est assez dommage. Mais c'est pas non plus ce qui ressort totalement de cette rencontre, puisque derrière on a eu des super beaux buts. Le premier d'Almada sur une contre-attaque assez impressionnante, et puis le pétard aussi de Mikotadze. Personne à la télé n'a cru que le ballon était dans le but. C'était assez marrant, même sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais. Hein, le commentateur a arrêté de parler. Ouais, sur le bon vieux OLTV. Bon, en tout cas, pour continuer sur les matchs de dimanche, donc 0-0 entre Brest et Reims. Reims qui grappille ses premiers points depuis un petit moment maintenant, donc positif malgré la physionomie de la rencontre. Match arrêté aussi entre Montpellier et Saint-Etienne, justement à cause de jets de projectiles sur le terrain, mécontents hein, les supporters montpelliérains. Et ça se comprend, Flo, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça?
Le karma. Voilà. Je pense à un moment donné, bon, écoute, c'est aussi une résultante de ton boulot et du travail que t'as fait ces dernières années. Et puis à un moment donné, c'est malheureux à dire, c'est que ce club-là est un club quand même mythique de la Ligue 1 avec un dirigeant emblématique. Et le souci, c'est que franchement, j'adore cette famille à la base, la famille Nicolas, mais là, je trouve que ça devient caricatural aussi. Et de voir ce club en danger, c'est peut-être une résultante du mauvais choix du président, de déclarations aussi. Tu vois, tu les ressors, tu les prends dans les dents et au final, bah écoute, l'année prochaine, tu seras pas en Ligue 1 et l'abonnement d'Azone, bah ça sera pour de la Ligue 2. Donc c'est vraiment très très dur de voir ce club-là descendre, qui a été champion de France il y a moins de 15 ans, tu vois, avec une génération et des joueurs incroyables. Et tu te retrouves à voir ce club maintenant disparaître. Il va descendre en Ligue 2, mais attends, le nombre de clubs qui peuvent potentiellement disparaître l'année prochaine parce qu'il y a des problèmes de finances dans les clubs. Je suis pas sûr que Montpellier, je pense que Montpellier en fait partie. Hein. Je suis pas sûr qu'ils avaient comment dire pronostiqué eux-mêmes une descente en Ligue 2. Donc pour tes comptes, ça va être compliqué.
Ouais, beaucoup de joueurs qui vont partir. Là aussi, on a quand même eu une chance par rapport au recrutement. Je pense à Omer Aguiche, notamment, qui est arrivé libre et qui peut potentiellement se revendre aujourd'hui autour des 5-6 millions. Ça peut éponger certaines dettes, mais ça reste quand même plutôt compliqué. Amaury, tu voulais rajouter quelque chose?
Bah pas spécialement. C'est à part, j'ai vu l'interview de Jean-Louis Gasset après, quand on lui demande, on en est où? Il dit, c'est terminé. Il le dit lui-même. Alors, je pense que c'est aussi pour faire passer un message aux joueurs. Mais en gros, on sent quand même une sorte de résignation. Et je pense qu'il était, il était touché par ce qui s'est passé en tribune. Et
ouais,
le fait que.
Points,
hein, et que... en fait, de ce qui se passe ça, alors que t'es dans un match, c'est compliqué, une période, c'est compliqué, ça l'a touché. Mais il a qualifié les performances de ses joueurs de honteuses, quand même, en conférence de presse. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et moi, ça me fait de la peine pour Jean-Louis Gasset, qui est un entraîneur qui a toujours su remonter des groupes comme ça. Alors qu'il l'a fait à Marseille l'année dernière, avec plus ou moins de réussite. Hein.
À Saint-Etienne aussi.
Mais qui est passé par beaucoup de clubs.
Hein, c'est assez marquant en Saint-Etienne. Ouais.
Mais là, cette fois, ça marche pas. Et ça me fait de la peine pour lui qui finira sa carrière à Montpellier, hein, c'est sûr.
C'est son club, c'est le club familial aussi.
Mais il devait pas revenir, il est revenu parce que c'était son club. Ouais. Et que dans son club, ça marche pas pour la dernière, c'est dommage.
Ouais, c'est dommage. Ouais.
C'est assez triste pour le storytelling. On va finir cette journée de Ligue 1 avec la victoire de Strasbourg 2-1 sur Toulouse. Et puis,
je vous avais oublié. je voyais déjà le match de 21h dimanche.
Il y avait un match quand même avant.
Oui, c'est vrai.
Dans le multiplex toujours. Mais oui, on finit avec forcément le gros match. Amaury, tu vas nous en parler de cette défaite de Marseille.
Ouais, défaite de Marseille. 3-1 contre Paris. Alors contrairement au match aller, donc au Vélodrome en début de saison, il y avait peu d'espoir parce qu'au match aller, Paris balbutiait un petit peu son football. Marseille faisait un bon début de saison et les supporters, on se mettait à rêver. Avant le match, il y avait peu de supporters qui se disaient bon, on va les gagner. C'était plutôt bon, on va prendre 4-0. Comme ça, si t'en prends 3, t'es content. et non, finalement. Un match de Marseille qui est plus cohérent que certains qu'ils ont pu produire face à Paris.
Plutôt honnête.
Mais voilà, ça suffit pas. Hein. Paris a été réaliste en première mi-temps. Dembélé, même qui est en feu, qui met quand même quand il rate son contrôle sur sa première prise de balle, bah il finit par réussir à dribbler Rouli sur une sortie, ce que très peu de joueurs ont fait cette année. Et derrière, bah ça fait 1-0. Le 2-0, il y a le moment où Marseille doit marquer en première mi-temps sur leur temps fort quand même qu'ils ont, avec Dedic qui rate sa passe, qui peut peut-être frapper, qui rate sa passe à 2 mètres devant le but. Hein.
Trop altruiste.
Ouais. Vraiment, c'est ce moment où je me dis, ça pourra pas le faire, ça truc. Puis il y a ce petit élan en début de seconde période, hein, avec cette réduction du score sur Nuno Mendes qui rate complètement sa passe, Rabiot qui en profite. Cette passe à Guiri qui marque, mais derrière, le but contre son camp, il n'y a pas de ce moment-là. Terminé, bonsoir, et c'est une victoire quand même méritée sur l'ensemble du match pour Paris.
Un but contre son camp à la Marsal, hein, pour ceux qui s'en rappellent, le but légendaire.
Bien fort. Il est peut-être pas aussi grave parce qu'il n'y a pas tout ce qui se passe avant.
Oui.
Mais c'est vrai, quoi, il est beau. Hein,
il est aussi impactant pour le moral, malheureusement.
Ah, clairement.
Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, Paris. Franchement, je ne vois pas comment ils pourraient pas terminer invincible déjà cette saison. Tu te dis, il y a 2 ans, t'avais Messi, Neymar, l'année dernière t'avais encore Mbappé, et cette année tu nous fais une saison comme ça, aussi aboutie dans le jeu. Franchement, moi je me régale à les voir jouer à chaque fois. C'est tout bonnement incroyable. Ils ont pas de points faibles. Même quand ils font tourner un peu l'effectif, ça se passe tout seul. Tu vois, là, il va y avoir des prochains matchs.
On peut mettre Barcola sur le banc. Alors qu'au début de saison, c'est la star du club.
Ouais, bien sûr.
Au début de saison, c'est la star du club. Aujourd'hui, tu peux le mettre sur le banc parce que ton attaque, elle est complète.
C'est...
Donc, encore une fois, c'est dans la, ça s'inscrit dans la volonté dont ils ont parlé en début de saison, celle de justement lâcher les stars. Pour le coup, le fait d'avoir Barcola comme star de l'équipe, c'est quand même assez évocateur. Maintenant, réussir ce qu'ils ont fait en aussi peu de temps, c'est-à-dire passer du tout au tout presque, je trouve ça assez assez étonnant. Et puis les stars que derrière tu vas aller chercher, alors bien sûr on a Dembélé qui s'est re-révélé entre guillemets, mais même Gvara, tu viens de chercher, c'est une grosse star du foot aujourd'hui, en tout cas dans la sphère footballistique, et c'est pas quelqu'un qui prend de la place médiatiquement ou publiquement, donc c'est exactement ça, c'est
et
parfait.
Qu'est-ce qu'il est fort franchement.
Après moi je pense que tout le mérite appartient à Enrique.
Oui.
Enfin, on peut dire ce qu'on veut sur son comportement.
On peut ne pas l'aimer, mais
ouais, son comportement après les matchs parfois avec la presse et compagnie, tu vois, ces manières à vouloir tout rendre secret, à vouloir parler football, mais à la fois, en fait, quand on lui pose vraiment des questions sur le football, parfois il répond pas.
Vous comprendrez pas,
il comprendra pas et tout. Mais il est trop fort. Il est vraiment incroyable. Et tu sens que tactiquement, il sait de quoi il parle et c'est toujours millimétré. Et j'ai hâte de le voir cette confrontation contre Aston Villa.
Ouais, bravo à lui. Et puis c'est quand même intéressant de voir les résultats qu'a un coach qui a la main mise sur son recrutement aussi au Paris Saint-Germain. C'est quand même une belle preuve que ça peut fonctionner.
Après, à vrai dire, si c'est lui ne l'a pas, si Luis Enrique n'a pas la main mise,
personne l'a.
Il a tellement du caractère, il est capable de dire claquer la porte.
Ah, il aurait pu partir. Il partait du jour au lendemain.
Mais il est trop fort.
Eh ben, on va continuer de parler du Paris Saint-Germain. On a une transition toute trouvée vers la Ligue des Champions, forcément, puisque mardi et mercredi se jouaient les derniers huitièmes de finale qui ont vu donc huit équipes sortir du lot, se qualifier pour les quarts de finale. Quatre rencontres, donc Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Barça, Dortmund et le Bayern contre l'Inter. Messieurs, est-ce qu'on commence par le Paris Saint-Germain? Forcément, là aussi, une rencontre sur le papier plus abordable que ce qui aurait pu être autre chose. Mais de toute façon, on n'avait pas de tirage au sort. On savait que ça allait être le cas, que ça allait être soit Villa, soit Bruges. La grosse rencontre, c'était Liverpool. Mais quand même, ça reste une équipe qu'il va falloir battre. Et Aston Villa, cette saison, c'est pas simple de les battre.
J'ai envie de dire, c'est presque le match piège par rapport à la forme du PSG actuellement. C'est un match d'un club qui a pas une renommée mondiale, qui met cette pression de la Ligue des Champions, j'ai envie de dire, alors que ça reste un quart de Ligue des Champions, et dans une période où Paris est au-dessus comme ça, il y aura pas de relâchement avec Enrique, c'est pas possible.
Non.
Mais c'est ce tout petit truc en plus que t'as face à Liverpool, que t'as face à ces grandes équipes, tu peux ne pas l'avoir complètement face à Aston Villa. Et dans un match où tu n'as pas la réussite comme au match aller contre Liverpool, tu peux te faire peur. Maintenant, Paris, au vu de ce qu'ils montrent depuis le début de l'année civile et de ce qu'ils ont montré là en Ligue des Champions contre Liverpool, normalement, ça devrait passer contre Aston Villa. Et derrière, par contre, là, tu auras tes tests, ton autre test face à Arsenal ou face à Madrid. Et derrière, en finale, face à Barcelone, au Bayern, à l'Inter, on ne sait pas. Mais voilà, les vrais tests, normalement, ils sont après. Maintenant, il faut faire attention et pas jouer ta demi-finale avant d'avoir gagné ton quart.
Ça, c'est le côté très Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain qui peut malheureusement ressortir. On va quand même rester optimiste face à cette équipe d'Aston Villa. Ça reste un adversaire prenable. Mais c'est aussi tout le dilemme, forcément. Oui. On a un adversaire qui n'est pas habitué à la Ligue des Champions sur les dernières années, mais qui reste un adversaire habitué des gros clubs en Première Ligue et des bons joueurs, des bonnes tactiques aussi. Donc ça va être un match bien évidemment piège, mais un match intéressant à suivre quand même, dans lequel le PSG ultra favori. Est-ce que dans les autres rencontres, il y a quelque chose qui vous intéresse également?
Le Arsenal Real, il va être à suivre. Ouais, évidemment.
Sûr, évidemment.
Et voilà, mais...
Même si je veux le PSG Real.
Ah ouais.
Ah bah oui, mais non, mais en fait, je veux ça. En fait. Après, c'est tellement Paris qui peut se faire sortir par Aston Villa, parce que tu te fais sortir par Emery.
Emery Enrique, c'est le retour de 2017. Hein.
Exactement, tu vois. Donc, c'est tellement Paris qui peut se faire sortir comme ça. Mais derrière, en fait, si tu peux avoir le PSG Real Madrid en demi-finale, le storytelling, il va être incroyable.
Le Real qui s'en sort miraculeusement.
Oui, en plus, bon, bah ça c'est un autre débat, ça. Franchement, voilà,
on n'a pas le temps.
Avec glissade près, voilà. Mais non, c'est voilà, Paris Real. Donnez-nous ça, offrez-le nous. Vraiment, allez, régalons-nous sur une double rencontre PSG Real. Derrière, mettez PSG Barça en finale et on se régale jusqu'au bout, tu vois, et on se régale jusqu'au bout, et ça serait grandiose pour le foot français. Voilà. Et l'Olympique Lyonnais en finale de l'Europa League, allez.
Et ben justement, qu'est-ce qu'on en pense rapidement hein, de cette rencontre face à United? Est-ce qu'il y a vraiment des chances concrètes de voir l'OL passer face à un United qui reste invaincu sur les 7 dernières rencontres? Amorine semble avoir trouvé sa solution avec un Fernandez en feu.
Alors oui, Fernandez en feu, mais j'ai envie de dire United, parmi ces gros clubs qui peuvent faire peur dans le nom, c'est le club qui est plus capable de rater complètement l'un des deux matchs, sur lequel Lyon peut mettre 3-0 sur l'un des deux matchs, en étant dominé sur l'autre, mais quand même passé. Après, tu peux avoir un United qui fait deux bons matchs, ça arrive aussi, hein, ils sont sur une belle série, mais je serais pas étonné de voir United rater complètement un match, ça leur arrivait ô combien de fois cette année et les années précédentes, donc Lyon a une chance. Lyon a une chance, clairement, maintenant, ils ne seront pas favoris, c'est sûr.
Que Lyon le fasse pour la France et pour l'OGC Nice. Voilà. Parce qu'on rappelle à nos auditeurs que le propriétaire du Manchester United, c'est aussi le propriétaire de l'OGC Nice. En plus, il se plaint du jeu de l'OGC Nice. On sait très bien ce qu'il veut en faire. Il veut le bazarder à un moment donné pour se concentrer parce qu'il a sans jouer au Royaume-Uni et à Manchester. Donc faites-le, voilà. Faites-le pour la France et pour l'OGC Nice.
Ouais, c'est bien dit Flo, voilà. Merci. Et puis c'est voilà, j'aime pas dire ça, mais on va venger Saint-Étienne.
C'est beau.
Eh oui, quand même. Non, mais
moi supporter l'Anse, je dis du bien de Lille, et toi tu dis du bien de Saint-Étienne.
C'est assez fou quand même.
Quelle émission.
Ouais. Exactement. Non, mais on verra.
Amaury a parlé du Paris Saint-Germain aussi, donc c'est bon.
C'est vrai.
On est sur un.
J'ai pas dit que j'avais une grande envie que le PSG gagne. Hein.
Non, on reste sur une belle envergure d'émission. Exactement. Dans la sympathie pour nos rivaux, et puis derrière l'OL qui, si il gagne, peut tomber potentiellement sur l'Athletic Bilbao, la meilleure équipe hein, potentiellement de cette Europa League, et puis derrière en finale Tottenham ou la Lazio sans doute. J'ai du mal à voir quand même l'Eintracht ou Bodo Glimt passer en finale de l'Europa League. En tout cas, ça nous donne quand même une fin assez ouverte hein. C'est l'une des plus faibles Europa League, je pense, de ces dernières années, ce qui est logique en tout cas au vu forcément du fait qu'il y a plus de clubs reversés en de la Ligue des Champions. Amaury, je te laisse continuer ce petit tour d'actualité internationale.
On va faire rapidement, je vais choisir mes informations. On va commencer avec le 15 de France qui devait s'imposer avec le bonus offensif contre l'Écosse pour être sacré champion sans faire de calcul, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Même si c'est pas le match le plus abouti du tournoi, les Bleus ont fait preuve de sérieux et de pragmatisme, ne laissant que très peu d'occasions à leur adversaire. Louis Baybaret et a encore marqué l'histoire en égalant le record du nombre d'essais inscrits sur une seule édition du tournoi Destination avec 8 réalisations. Et un autre exploit, celui de Thomas Ramos, qui avec 20 points inscrits contre l'Écosse, dépasse Frédéric Michelac et devient le meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. Donc l'équipe de France qui gagne ce tournoi Destination, qui rate ce grand chelem grâce à cause de cette défaite à la dernière minute face à l'Angleterre. Mais on va dire qu'on oublie parce qu'on a gagné à la fin. Autre information, c'est la saison de Formule 1 qui a repris avec le Grand Prix d'Australie, totalement fou. Lando Norris a réalisé un week-end parfait avec la pole position, la victoire et le meilleur tour en course. Mais ce qu'on retiendra, c'est surtout le chaos dû à la pluie qui a provoqué de nombreuses sorties de route. Seulement 14 voitures ont vu l'arrivée, et même des pilotes expérimentés hein, comme Carlos Sainz ou Fernando Alonso n'ont pas été épargnés. Isaac Hadjar, lui, je ne sais pas si vous avez vu, mais n'a même pas pu prendre le départ, ayant perdu sa voiture dès le tour de chauffe. Un scénario cauchemardesque pour la première course du Français en F1, mais on croit en lui, hein, ça n'a pas été le seul à perdre sa voiture. Il ne reproduira pas cette erreur la prochaine fois. Donc derrière Norris, c'est Max Verstappen qui termine deuxième, montant qu'il reste redoutable, même avec une Red Bull légèrement en retrait, tandis que George Russell complète le podium. Alex Albon crée la surprise, lui, en terminant quatrième avec sa Williams, le meilleur résultat de l'écurie depuis longtemps. Quant à Ferrari, les espoirs étaient grands, mais la stratégie et les qualifications ratées ont plombé Leclerc et Hamilton, qui n'ont jamais vraiment pu peser sur la course.
Merci Amaury pour cette info Formule 1 et rugbystique. On se retrouve la semaine prochaine, Mathéo. On va aller dans une semaine internationale, donc on pourra évoquer l'équipe de France aussi également dans cette émission.
Toujours.
Encore et toujours, passez une très bonne semaine sportive à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. 101.5 FM. Le jour où on m'a dit, il va falloir...